Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Et les choses ont fait qu'en sorte que cette semaine, je suis entourée de deux membres de la rédaction de Cato Bell. Il s'agit de Manu Vanir et Pierre Granier. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour Armelle, bonjour à tous.
Bonjour Armelle, bonjour Manu et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous avons deux sujets complètement différents l'un de l'autre sur la table. Nous allons d'abord parler d'un document publié par le Vatican ce lundi. Il s'agit de la déclaration Dignitas Infinita, la dignité infinie, dans laquelle le Vatican, par le biais du cardinal Fernandez, rappelle ce qu'est la dignité humaine aux yeux de l'Église. Et puis nous irons sur les routes cyclistes, pour parler de ces très nombreuses chutes sur les courses ces derniers temps. Et puis juste avant que vous nous parliez du dimanche de la semaine, Pierre, nous aurons vos zooms. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors moi, je vais vous parler de congé, mais plutôt de congé maladie.
Et moi, Pierre, d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ok, c'est noté. On y revient donc en dernière partie d'émission. En avant pour ce premier gros morceau auquel nous avons décidé de nous attaquer, la déclaration Dignita Infinita. Cette déclaration a été rédigée par la Congrégation de la Doctrine de la Foi, représentée dans le texte par le cardinal Fernandez, comme je le disais tout à l'heure. La rédaction, avec quelques allers-retours, a pris 5 ans pour que cela soit au point et que le pape François l'a donc approuvé ce lundi. Dans ce document de 17 pages sans les références, le cardinal revient sur la définition de la dignité et de ses différentes formes. Et la dernière partie du document reprend quant à elle une série de violations graves contre la dignité humaine. Je vous en fais la liste, mais on n'aura évidemment pas le temps de parler de tout. Sont donc considérés par l'Église comme des violations graves contre la dignité humaine, la pauvreté, la guerre, le travail des migrants, la traite des êtres humains, les abus sexuels, les violences faites aux femmes, l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie, le suicide assisté, la mise au rebut des personnes handicapées, la théorie du genre, le changement de sexe et la violence numérique. C'est déjà une longue liste. Et encore, il y a d'autres choses qui sont citées dans le texte. Alors, il y a des choses auxquelles on s'attend de manière universel à retrouver dans la liste. D'autres, on s'y attend parce que le document émane de l'Église. Est-ce que, avant d'entrer dans les détails, il y a quelque chose qui vous étonne dans cette liste ou quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir là ou au contraire qui pourrait y manquer ?
Alors, en tout cas, c'est une liste non exhaustive, hein, précisément.
Exactement.
Donc, c'est vrai qu'on pourrait encore, presque à l'infini, compléter le document. Elle est étonnante, en tout cas, dans le fait que la nouveauté, c'est que c'est, on regroupe au sein d'un même document, donc, les thèmes chers au pape François, donc, qui sont la défense, effectivement, de l'homme par rapport à toutes les situations de pauvreté, les migrants, voilà, les grandes lignes de son pontificat. Et puis, on y retrouve aussi beaucoup de thèmes liés à la bioéthique, donc, comme vous l'avez signalé, donc, la GPA. Même la théorie du genre, qui pouvait peut-être être un peu surprenant dans ce texte-là, mais qui, au regard des arguments avancés, ben, finalement à sa place. Donc on a un seul document qui reprend l'ensemble de tout ce que l'Église considère comme être des atteintes à la dignité humaine. Il y aura le mot dignité humaine qui est clairement défini dans ce texte-là, peut-être par rapport à des conceptions nouvelles qui apparaissent dans la société. Et donc le document, il a l'avantage et la qualité d'être très clair dans l'écriture. C'est parfois un peu compliqué à lire et là c'est quand même assez long, mais j'ai pas trouvé, voilà, je pense qu'il est quand même abordable pour tout un chacun. Et j'ai vu qu'il avait fait 7 milliards de vues sur Internet. Alors je sais pas si c'est le document lui-même ou si c'est un résumé des grandes lignes ou si c'est peut-être uniquement certains aspects de cette déclaration qui ont fait 7 milliards de vues sur Internet. Mais le cardinal qui l'a présenté, en tout cas, a fait un buzz avec ça. Je ne sais pas, en tout cas il était tout fier d'annoncer ce chiffre.
Manu,
Ben, vous demandiez si, s'il y avait des thèmes qui nous étonnaient un peu dans la liste. Alors, étonné pas, mais j'étais heureux de voir que on reprenait, par exemple, vraiment une mise en avant de la violence contre les femmes, et assez bien dans le détail. Un peu plus étonné sur la GPA, la position de l'Église, que je trouve fort peu ouverte finalement. On comprend toute condamnation par rapport à une monétisation d'un enfant. Par contre, oui, si on oppose les questions du don, de la générosité, de l'entraide, ouais, il y a une partie de ce document que je trouvais un peu rude, en tout cas dans les termes utilisés. Et puis alors, j'étais positivement étonné par la présence donc de la violence numérique parmi les violations abordées. Et c'est vrai que là, les exemples sont vraiment nombreux aujourd'hui, avec bien sûr l'exploitation, l'exclusion, la violence qui s'exprime sur le web, avec le dark web. Et puis alors, il cite dans le document aussi le cyber-bizutage. Moi, c'était une notion que je connaissais pas, donc ça m'a intéressé. Mais aussi, bien sûr, oui, toutes les exploitations, que ce soit des enfants, des personnes fragiles, des femmes, ou les exploitations à des fins commerciales. Donc, oui, c'est un grand point d'exclamation, une mise en garde, en tout cas, par rapport au dérapage possible, tout en disant que cette technologie doit servir la dignité humaine, en promouvant le bien, la rencontre et le service. Donc, je trouve ça assez... Enfin, il y a un message, en tout cas, positif dans ce point-là, quoi.
Je vous proposerai de revenir sur la GPA tout à l'heure, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Mais avant ça, le document parle de 4 sortes de dignités différentes. La dignité ontologique, la dignité morale, la dignité sociale et la dignité existentielle. Alors, pour l'Église, le sens le plus important est celui de la dignité ontologique. Et je vous avoue que j'ai dû aller vérifier ce que ça signifiait, ontologique. Et donc, l'ontologie, c'est la partie de la philosophie qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières. Le document, il précise que cette dignité ne peut être retirée à qui que ce soit. Alors, il y a des situations dans lesquelles on comprend que c'est une violation parce que, à l'encontre d'une personne qui lui retire sa dignité, mais il y a aussi des choses dans cette liste que je vous disais tout à l'heure, où nous posons un acte sur nous-mêmes qui fait qu'on se retirerait en dignité. Ça, je vous avoue que moi, je n'ai pas trop compris, si vous savez éclairer mes lumières là-dessus, m'éclairer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une liste de ce qui nous retire notre dignité, des actes qu'on se porte à nous-mêmes ?
On peut peut-être revenir d'abord sur ces 4 formes de dignité. Donc, oui. Dignité ontologique, de manière simple, c'est voilà, dans la nature de l'humain, et cet humain en rapport avec Dieu, en tant que création de Dieu. Mmh. Donc ça, et tout le document, toutes les violations s'arrêtent uniquement sur cet aspect-là. Ensuite, il y avait la dignité morale, qu'on peut résumer en liberté, possibilité d'agir contre sa conscience. La dignité sociale, donc les conditions de vie, le rapport à la pauvreté. Et enfin, la dignité existentielle, donc c'est parfois les difficultés à vivre dans la paix ou la joie, les situations de maladie grave, de violence familiale, d'addiction. Donc, ces différentes acceptations de la dignité qui peuvent être utilisées dans le langage commun, mais qui sont pas celles sur lesquelles s'attarde le texte ici. Donc, on reste vraiment bien au niveau de cette dignité ontologique. Après, je pense qu'il faut comprendre ça un peu comme le don de la foi, où la foi vous est donnée, mais vous avez encore la liberté de la manière dont vous allez la vivre, la ressentir, la partager. Et ici, on parle de dignité humaine, et vous pouvez vous en écarter finalement par des choix, par des comportements ou par la vision que vous aurez de certains sujets qui sont cités justement dans ce texte, en s'en éloignant, en tout cas en s'éloignant des prescrits de l'Église. Je sais pas si Pierre a ressenti les choses de cette manière-là aussi.
Oui, c'est vrai que parfois ça peut être difficile, parce que vous savez, souvent les religieux parlent d'un certain analphabétisme du point de vue de la religion. Donc c'est vrai que la société de plus en plus ne comprend pas le discours de l'Église parce qu'elle n'a pas ce vocabulaire. Et je pense qu'effectivement le mot ontologique ça reflète bien cette difficulté.
C'est pas un mot qu'on utilise tous les
et
jours.
Non, et ça c'est clair. Non mais c'est clair, mais bon c'est pas je veux dire
c'est un terme de philo hein.
C'est un terme philosophique, c'est vrai qu'on fait pas de la philosophie tous les jours et qu'on l'apprend même on l'étudie même pas et c'est dommage à l'école. Mais voilà, à partir du moment où voilà, l'Église pose comme postulat de départ que l'homme et la femme est une créature de Dieu, est un objet de création. On ne peut pas voilà revenir sur cette nature comment dire créée par Dieu donc et l'homme à l'image de Dieu. Bon, mais ça effectivement c'est quelque chose qui n'arrive plus à être compris, à assimiler, parfois même toléré par une partie de plus en plus importante de notre société. Donc c'est ça explique, à mon avis, l'écueil sur un certain nombre de prises de position de l'Église par rapport au débat de société qui affleure avec, effectivement, toutes ces nouveautés que sont la GPA, que sont la théorie de genre, et aussi le suicide assisté, l'euthanasie. Donc là, il y a vraiment une incompréhension mutuelle.
Alors, il y a trois ou quatre de ces violations que j'aimerais aborder avec vous. Certaines peuvent être facilement mises en lien avec l'actualité de cette semaine. Et à commencer par le travail des migrants. Donc on dit dans cette déclaration qu'ils sont sous-payés et qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions, en gros résumé, et donc que ça atteint à leur dignité. Et l'Union européenne, elle a approuvé mercredi un pacte justement sur la migration où on pourrait ajouter à cette liste de choses le fait qu'on enferme les migrants à l'entrée en Europe et que ça atteint leur dignité ? Ou c'est pas du tout dans le même sens, selon vous ?
Ça, c'est clair. De toute façon, par exemple, on est bien placé en Belgique. On a un JRS qui est, de ce côté-là, vraiment, un lanceur d'alerte, si on peut dire, par rapport au centre, ce qu'on appelle le centre de détention des migrants. Où il n'y a aucune raison que ces gens-là soient dans des établissements qui ressemblent quasiment à 100% à une prison, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir, donc ils ont le droit à avoir de la visite, mais bon, je veux dire, vous avez un périmètre de sécurité, vous avez la police qui surveille, vous avez des grillages, donc c'est quand vous voyez le bâtiment de l'extérieur, ça ressemble vraiment à une prison. Donc ça, c'est clair que... Mais en plus, je dirais, l'Europe qui prône la liberté de circuler, alors évidemment, intra-européenne, la liberté de circulation pour les hommes, là, est en train de durcir un texte par rapport aux personnes migrantes d'autres continents. Et donc là, clairement, je trouve que le texte, là, il va tout à fait dans le sens de la défendre la dignité humaine pour ces personnes-là. On ne voit pas pourquoi on enfermerait des gens qui ne sont pas dangereux pour la société, qui essaient juste d'essayer de trouver un monde meilleur pour leur famille, de tenter leur chance à l'étranger, loin de chez eux. Après, quand on connaît les parcours en plus de ces migrants, c'est dantesque. Hein. Parfois, ils arrivent chez nous après 4 ans de périple et de sévices, souvent, de torture parfois. On a entendu parler en Libye de cas vraiment horribles.
Et toutes ces choses qui sont en lien avec la pauvreté et la guerre qui sont aussi dans la liste des violations du document.
Oui, tout est lié, ça c'est clair. Hein.
Manu, vous voulez ajouter quelque chose ou pas ?
Mais simplement qu'il y avait un principe qui était intéressant dans la déclaration au sujet du travail des migrants, c'est de dire qu'ils sont considérés par les pays d'accueil comme des personnes ayant moins de valeur ou moins d'importance. Et c'est vrai, on parle de pays d'accueil, mais il faut parler de la dimension de cet accueil. On est très bien placé en Belgique pour voir clairement que nos institutions font du travail, mais que pour une part de la prise en charge de ces personnes migrantes, il n'y a pas une volonté de les accueillir dans les meilleures conditions possibles, de leur faciliter, par exemple, les démarches administratives, le regroupement familial. Et donc, voilà, c'est où on met les limites de cet accueil. Est-ce qu'on limite aussi cet accueil à un certain nombre de personnes? Et est-ce qu'on veut vraiment les inclure dans notre société et prendre en compte leur parcours et leurs valeurs humaines? Et ici, le document met le point, justement, sur cette valeur humaine. Et c'est ça, hein, quand on parle de dignité humaine, c'est une dignité humaine qui doit être appliquée à chaque homme, femme, chaque être vivant, mais vraiment sur un rapport d'égalité dans le traitement de la personne.
Oui, on dit souvent, ce sont des illégaux, mais ça, c'est un concept qui n'a pas de sens. Personne n'est illégal sur cette planète, ou alors on doit vraiment s'inquiéter. Alors, ils n'ont pas de papier, hein, peut-être, les autorisant à venir sur le territoire. Mais après, on ferme les yeux sur beaucoup de situations parce que un certain nombre de ces personnes concourent à faire tourner l'économie dans les services à la personne. On a beaucoup de cas de gens qui sont sans papier, certes, mais qui travaillent à côté. Donc on a des incohérences et ces gens-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un cas récent, et je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais d'une personne qui aidait à la cantine scolaire et puis qui a reçu un ordre de quitter le territoire. Toute l'école s'est mobilisée pour pouvoir la garder. C'était dans le Brabant wallon, je crois. Hein. Et quoi, donc on ne reconnaît pas une utilité à cette personne. Donc là, elle est franchement, c'est pas une atteinte à la dignité humaine, ça. Alors surtout de la part de nos institutions, alors que là, pour le coup, la société faisait plutôt corps avec cette personne pour lui offrir un travail, lui offrir une dignité via ce travail-là, et une perspective d'une vie normale, d'une intégration. Donc il y a quand même effectivement beaucoup à dire par rapport à ça.
Alors, parce qu'on n'a pas le temps de développer tous les sujets, évidemment. Je vais en venir au sujet de la violence contre les femmes. Il est dit que donc c'est un sujet assez large concernant l'égalité entre hommes-femmes. Le sujet est assez bien développé dans le document. Il est dit que les femmes ont la même dignité que les hommes et devraient donc avoir les mêmes droits. Et ceci, j'aimerais faire un lien avec l'actualité de l'Église. Vous avez sans doute dû l'entendre. Une dame belge a saisi le tribunal de première instance de Malines contre l'Église, car il a été de refuser de prendre part à la formation pour devenir diacre. Et effectivement, à l'heure actuelle, les femmes n'ont pas le droit de suivre ces formations et d'être ordonnées diacre. Alors pourquoi pousser la société civile à donner plus de droits quand l'Église, elle a du mal à le faire aussi?
Moi, je vous rejoins sur ce point-là et je me suis fait la même réflexion. La dame, elle est dans le Brabant flamand, elle voulait suivre la formation de diacre. Donc, on parle pas encore d'ordination de diacre pour une femme, mais en tout cas de suivre la formation. Et donc, elle dit, il y a une question d'égalité. Et donc là, il n'y a pas d'accès à la formation pour une femme. Donc, elle dénonce cela. Et en effet, ça rejoint finalement ce que le document dénonce sur les inégalités sociales qui subsistent entre hommes et femmes. Et donc, c'est vrai que l'Église ne peut pas à la fois dénoncer ces inégalités, par exemple, les inégalités salariales, de traitement, de type de travail qu'on va imposer aux hommes ou aux femmes, etc. Et en même temps, bloquer quelqu'un qui veut suivre une formation. Maintenant, je pense que ce sont plus des questions de droit ici que vraiment une question morale qui va être jugée, en tout cas dans le cas de cette dame du Brabant flamand. Mais je me suis dit qu'en effet, sur ce point entre les inégalités hommes-femmes dans notre société, l'Église est encore mal placée parce qu'en effet, elle limite l'accès sur une série de postes.
On pourrait même imaginer aller plus loin et qu'une femme se demande à un tribunal pourquoi elle ne peut pas accéder à la prêtrise. Parce que là, alors, c'est encore plus limité.
Et ça, c'est une grande conversation.
Et ça, c'est le droit canonique, c'est tout.
Mais voilà, alors là, on a un droit canonique qui régit l'institution, l'organisation interne de l'institution. Et je ne sais pas, je ne suis pas un juriste expert, dans quelle mesure le droit positif pourrait obliger l'Église a changé son règlement interne, on va dire. Donc ça c'est une question. Mais effectivement, là, c'est intéressant de soulever par rapport à la dignité. Est-ce que c'est une atteinte? Est-ce que refuser un poste est une atteinte à la dignité? Voilà, la question, on pourrait la poser aussi comme ça. En tout cas, en proclamant l'égalité homme-femme pour les droits, il y a peut-être effectivement une faille.
C'est des petits détails dans les formulations de l'un de côté et de l'autre, mais ça se rejoint.
Oui. Je pense.
Alors, en vitesse, un troisième sujet qu'on a déjà mentionné et sur lequel on peut peut-être aller un peu plus loin. Il s'agit de la GPA, qui est, donc il y a une partie du document qui s'y attaque, mais sans pour autant donner de détails de si on parle de personnes qui font cela pour rémunération ou si par exemple c'est quelqu'un qui va aider un couple d'amis qui n'est pas en capacité d'avoir un enfant de manière naturelle. Tout ce qui est mentionné ici, c'est le fait qu'on a un contrat qui concerne cet enfant et qu'un enfant ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Mais que fait-on donc ici des familles où la mère est stérile, où elle a dû subir une opération qui l'empêche de porter un enfant, ou encore des familles qui adoptent, parce que là on a une sorte de contrat d'adoption avec un orphelinat, donc l'enfant fait de toute façon l'objet d'un contrat. Alors qu'est-ce qu'on...
Je pense que le texte répond vraiment à cette question. J'ai noté, le désir légitime d'avoir un enfant ne peut pas être transformé en un droit à l'enfant qui ne respecte pas la dignité de l'enfant lui-même en tant que destinataire du don gratuit de la vie. Donc, en gros, on vous dit que le désir d'avoir cet enfant passera pas au-dessus de toutes les règles. Et je peux rejoindre le texte sur l'aspect financier, sur l'aspect contrat, quand l'enfant ne devient plus qu'un objet qui est l'objet de ce contrat. Par contre, en effet, sur la dimension de solidarité que vous mettiez en avant, moi, je pense vraiment que l'Église pourrait avoir une réflexion autre là-dessus, beaucoup plus ouverte, une solidarité, ben oui, en effet, entre une femme qui a la chance de pouvoir porter un enfant et une autre qui ne le peut pas et qui a ce souhait de fonder une famille. Donc, ouais, là-dessus, je regrette que ce soit pas un peu plus développé dans le texte et qu'il n'y ait pas peut-être l'une ou l'autre exception, ou en tout cas des cas différents puissent être pris en compte.
Le problème, c'est qu'une fois qu'on légifère par rapport à ça, donc accorder un droit à avoir un droit à l'enfant et donc recourir à une mère porteuse, alors on va avoir effectivement quantité d'exemples où la mère porteuse va vous dire « mais je fais ça vraiment ». Par comment dire, souci d'altruisme, en fait. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'amour dans le fait que je porte cet enfant et cet enfant n'est pas le mien. Bon, et à côté de ça, on va vous dire, mais attendez, vous avez un enfant quand même que vous portez. Il y a forcément un lien qui va se créer entre l'embryon, entre le futur bébé, et puis la mère qui le porte. Et donc, c'est d'une certaine manière, on arrache quand même cet enfant à la mère qui l'a porté. Et puis, il y a sûrement beaucoup de cas. Pour un cas comme ça, je dirais idéal, vous allez avoir sûrement beaucoup plus d'autres cas où là, ce sera réduit à vraiment une matrice où la mère, et là, vraiment, la femme, c'est là où il y aura une atteinte à la dignité de la femme. C'est que ça n'est plus la mère, là. C'est une matrice. Hein. Elle porte l'enfant. Et en ce sens, donc il y aura peut-être même de l'argent derrière. Et c'est en ce sens où la dignité de cette mère qui porte est atteinte, parce que malheureusement, ça sera peut-être pas toujours par un pur altruisme qu'elle va le porter, mais par nécessité, parce que voilà, elle aura peut-être un dédommagement qui lui permettra, elle, de vivre derrière, peut-être de nourrir sa propre famille. On voit ça en Inde avec les transplantations d'organes, où malheureusement, les gens les plus pauvres n'hésitent pas à donner un rein pour pouvoir subsister. Donc il y a toute cette dérive autour de la GPA que craint l'Église de manière très très forte.
Il y a quelque chose dans ce que vous venez de dire, Pierre, qui m'interpelle. Vous avez dit qu'on arrache l'enfant à sa mère. Et ça me fait penser, alors c'est une question que je n'avais pas spécialement prévu de poser. Il y a plusieurs points dans le document où on voit que l'Église critique certaines choses qui ont été faites par l'Église dans le passé. Si on relit l'histoire, si on peut remonter loin. Et ça a été le cas, par exemple, au Canada avec les autochtones où les enfants ont été arrachés à leurs parents aussi pour les rééduquer. Alors est-ce que l'Église, pour terminer... peut vraiment...
Ça, le cardinal Fernandez en parle dans une déclaration là toute récente en disant l'Église évolue et la manière de percevoir la société et de se positionner aussi sur des points précis de la société évolue. Et il prend un exemple qui est celui de l'esclavagisme, où dans l'histoire, un pape a eu une position, une orientation, qui n'était pas du tout celle défendue 80 ans plus tard par un autre pape. Et donc, de dire que c'est pas parce qu'un pontife s'est exprimé d'une certaine manière sur un sujet que pour ça, le sujet sera arrêté à tout jamais et inscrit comme tel, ça devient pas un dogme, on va dire.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, le cas vous citez pour le Canada, ça s'est aussi vérifié en Irlande, par exemple.
C'est le premier exemple qui m'est venu.
Oui. On arrachait effectivement les jeunes filles, on arrachait les enfants des jeunes filles mères qui étaient recueillies dans des établissements catholiques et étaient ensuite mis à l'adoption pour des grandes. Beaucoup sont partis aux États-Unis. Mais je veux dire, l'Église actuelle se repent de ces choses-là. Donc elle reconnaît ses erreurs, ses errements, je dirais. Et il y en a eu beaucoup tout au long de l'histoire de l'Église. Voilà. C'est humain. Elle a une incarnation qui est malheureusement parfois. L'Église a une incarnation qui est parfois malheureusement avec ses défauts aussi.
Et il y a un cas très concret, donc, dans les exemples de violation de la dignité humaine, qui est les abus sexuels.
Qui est très peu détaillé dans cette déclaration d'ailleurs.
Très peu détaillé, mais ils ont quand même l'audace de le reprendre parmi cette dizaine de points différents. Et en disant, et bon, je pense que c'est une communication qu'on entend vraiment beaucoup ces dernières années, que tous ces abus ont laissé de profondes cicatrices dans le cœur de celui qui les subit. Mais alors, ils disent que l'Église a un engagement constant pour mettre fin à tout type d'abus en commençant par elle-même. Et voilà, là on voit l'élégance de la formule aussi. Je pense qu'ils n'ont pas voulu détailler parce que c'était l'objet aussi d'autres publications récemment. Mais ça montre en effet aussi qu'ils prennent à bras le corps les défauts aussi de l'Église dans son fonctionnement. C'est pas juste une Église moralisante pour les autres, c'est une Église qui se veut moralisante pour elle-même également.
Je trouve que c'est une très belle conclusion à cette conversation que nous avons sur ce document. Et je vous propose de faire une petite pause musicale avec Coldplay et Sky Full of Stars.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. In the sky, 'cause
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Nous sommes de retour pour cette seconde partie de décryptage avec Pierre Granier et Manu Vanlier. Nous allons maintenant parler de cyclisme et surtout des chutes qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont assez impressionnantes. Je pense notamment à la chute de Wout van Aert qui a dû abandonner le Tour de Flandre après une grosse chute il y a quelques semaines. Les images, moi, m'ont fait mal pour lui. Alors, je préfère laisser parler les experts de ce studio du cyclisme pour parler de tout ça. Alors, messieurs, selon vous, pourquoi voit-on autant de chutes en ce moment ?
Ah, mais c'est la grande question, ça, justement, qui intéresse les experts, parce que il y a plusieurs, beaucoup de raisons qui sont avancées pour ça. Je crois que peut-être que la première des réponses, c'est, enfin, en tout cas, selon les professionnels et certains, je dirais, observateurs, qui ont un passé sportif en général qui leur permet de parler en connaissance de cause, il y a l'évolution technologique des vélos. Des vélos qui sont alors de plus en plus légers, mais qui sont aussi peut-être de plus en plus rigides. Et donc le moindre écart est plutôt fatal. Et donc ça pourrait expliquer donc une grande partie des chutes, parce qu'on a pu observer, enfin le débat sur ces chutes a été en particulier, j'irais, visible plutôt sur le tour du Pays Basque, puisque là il y a deux favoris du futur Tour de France qui sont tombés avec des dégâts quand même assez sérieux. Donc pour Remco Evenepoel, c'est la clavicule fracturée, je crois, et puis l'omoplate
et clavicule.
Ouais, c'est ça. Et pour le vainqueur sortant, donc le Danois Vingegaard,
clavicule, côte et même poumon touché. Donc,
oui, c'est ça. Donc,
pneumothorax.
Ouais, ça pneumothorax. Fait plaisir.
Oui, donc ça c'est quand même déjà, en termes de gravité, on est déjà quand même sur de la casse assez sérieuse. Et donc forcément, on s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi tant de chutes. Et donc, une des raisons avancées, ça serait peut-être effectivement les vélos.
Oui, et c'est vrai que l'attention est attirée par le fait que ce sont vraiment les toutes grosses stars actuelles du cyclisme qui sont touchées, voilà, avec des chutes assez graves, avec une immobilisation ou une convalescence qui s'annonce en semaine et parfois en mois.
Vous parlez de pneumothorax, pour l'avoir vécu, c'est une semaine de soins intensifs et plusieurs semaines de convalescence après son sport.
Ça. Hein. Et le Tour de France commence en juillet, donc on se demande si finalement ils pourront y participer, en tout cas avec tous leurs moyens.
Voilà. Et si on regarde un peu en termes de chiffres, eh bien, on se rend compte que là, sur les deux dernières années, il y a de plus en plus de chutes. Je peux vous donner des chiffres. Hein, c'était 247 cyclistes pro blessés en 2022. On est à 295 en 2023. Et on voit qu'ici, en 2024, les accidents s'enchaînent avec une certaine forme de gravité. Donc,
parfois
ça
mortel,
interpelle.
Parfois mortel. L'an passé, sur le Tour de Suisse, ou en tout cas sur une épreuve en Suisse, il y a eu un cycliste qui malheureusement a perdu la vie. Le vélo est devenu un des sports les plus dangereux. Enfin, le vélo, en tout cas, le vélo de compétition, le cycliste, est devenu un des sports les plus dangereux au monde.
Gino Mader, donc, ouais, qui est mort suite à une chute autour de Suisse. Et j'avais un peu regardé sur les dernières années les coureurs professionnels qui avaient perdu la vie. Avec Pierre, on avait comparé avec le sport, un autre sport dangereux, ou en tout cas considéré comme dangereux, qui est la Formule 1. Si vous prenez en Formule 1, le dernier...
Il y a moins de pilotes, c'est vrai. En termes de
quantité. Mais ils vont quand même
quantité,
beaucoup plus vite.
Mais ils vont beaucoup plus vite, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et donc, la dernière personne qui avait perdu la vie en Formule 1, c'était en 2014. Avant, il fallait remonter à 1994 avec Ayrton Senna. Alors que ici, juste avec les coureurs belges, je peux vous en citer des morts en 2011, en 2016, en 2018, en 2019. Rien que des Belges.
C'était pas après 2014 le dernier décès en Formule 1
Non, c'est 2014, c'est Jules Bianchi.
Je pensais que c'était français. Plus tard.
En Formule 1, il y a eu des essais sur des Formule 2, je crois, ou d'autres catégories automobiles, c'est vrai. Mais pour la Formule 1, bon, c'est vrai que le plateau, il y a beaucoup moins de pilotes que de concurrents, que de
mais là, qu'on a perdu vraiment la star du moment avec Ayrton Senna, eh bien, on a mis en place tout un dispositif et au fur et à mesure des années, on arrive à sécuriser de plus en plus. Donc, vous avez toujours des accidents qui sont graves, qui sont vraiment très impressionnants, mais il y a une coque de protection qu'on met autour de ces coureurs qui permet de limiter les risques. Parce que bon, on parle de vitesse hallucinante, mais avec le cyclisme, on parle aussi de vitesse hallucinante, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voir des courses où sur des parties du trajet, la vitesse moyenne est de 70 km/h, 80 km/h. Avec, vous avez au final votre petite bicyclette entre les mains. La protection, c'est quoi? C'est un casque. C'est tout.
Ah oui.
Et j'avais des chiffres, je vais essayer de retrouver ça. Oui, voilà. Il y avait une étude en France qui montrait que les chutes à vélo, un cycliste sur deux se blesse au bras, un sur trois aux jambes, un sur quatre au visage et seulement un sur six à la tête. Donc, bah vous réalisez rien qu'avec ce chiffre-là que c'est pas le port du casque qui garantit votre sécurité en cas de chute à 70-80 km/h.
Non, surtout ces petits casques de vélo.
Les coureurs, ils ont demandé des solutions, par exemple comme une chicane à l'entrée de la Trouée d'Arenberg pour la semaine dernière.
Oui, c'était la course Paris-Roubaix. Ouais.
Et au final, l'obstacle qui leur a été mis était même peut-être plus dangereux que l'entrée sur les pavés.
Ouais, alors là, écoutez, je sais pas, je peux pas apprécier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas,
La position de Mathieu Van Der Poel.
Oui, mais le vainqueur, ça l'a pas empêché, en tout cas, de gagner et surtout de battre le record de en temps, en termes de moyenne. Il a fait aussi, là, encore exploser, paraît-il, la moyenne kilométrique sur ce Paris-Roubaix. Donc ça, cette chicane ne l'a pas gêné du tout. Il est possible que les aménagements pensés comme ça rapidement, hein, parce que justement, il y avait eu ces chutes. Ils avaient manqué un peu de temps pour vraiment réfléchir aux bons moyens de faire ralentir le peloton avant d'arriver sur ce secteur pavé, parce que jusqu'à présent ils arrivaient lancés à 50-60 km/h, donc c'était assez effrayant puisque vous passez d'une route à un petit boyau avec des pavés, donc là il y a toutes les chances qu'il y ait beaucoup de gens au tapis. Mais bon, il y a peut-être effectivement, alors sur les circuits de Formule 1, évidemment, il y a eu beaucoup de travail sur les sécurités sur les voitures et sur les aménagements des circuits aussi. Sur des routes, ça semble un peu plus compliqué d'aménager des sécurités partout parce que ça coûterait
partout,
trop cher.
Il y a des
îlots centrales. Enfin, on sait bien qu'il y a plein de pièges maintenant qui ont été des pièges qui sont en fait des aménagements pour assurer la sécurité des voitures, mais qui pour les vélos évidemment se traduisent plutôt par des pièges, hein, notamment les abords des ronds-points. Enfin, on voit souvent des chutes où on prend l'îlot qui sert à délimiter les deux voies. Donc c'est vraiment pas évident pour ça. Et puis sur les vélos, on est en train de se demander s'il faut pas un peu revoir un peu la technologie et peut-être la limiter comme ça a été fait sur les voitures de Formule 1. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait des voitures on avait travaillé à un point tel l'aérodynamisme que les voitures étaient littéralement, je dirais, collées à la route. Mais le problème, c'est que dès qu'il y avait une voiture heurtait une autre, et dès qu'elle se soulevait, en fait, elle décollait complètement, la voiture. Donc, et là, ils se sont dit, c'est plus possible, on peut plus garder cette technologie parce qu'elle est vraiment meurtrière. Donc, sur les vélos, oui. Mais il y a tout un tas d'évolutions aussi dans le cyclisme qui peuvent expliquer ces chutes. Et qui peuvent aussi expliquer le fait que le peloton, il y a beaucoup de tensions, enfin, sur les grandes courses, tout le monde veut être aux avant-postes, justement, pour éviter de pas être pris dans une chute. Et il y a aussi ces fameuses oreillettes, donc toutes les consignes maintenant. Le coureur est relié en permanence avec son directeur sportif. Et donc, c'est sans arrêt des échanges d'informations et on peut penser que c'est un peu comme quand on a le téléphone dans une voiture, on n'est plus tellement concentré sur la route dès lors qu'il y a quelqu'un qui vous parle à l'oreillette. Donc ça pourrait aussi expliquer des erreurs d'inattention qui entraînent une chute.
Quoi. Oui, enfin, ça plus les compteurs.
Il y a des facteurs, voilà.
Les compteurs aussi kilométriques qui indiquent la vitesse, etc., des moyennes, et donc ils se concentrent là-dessus plutôt que regarder la route. On peut parler aussi de l'inconscience des spectateurs. Ah, c'est vraiment marquant de voir parfois des gestes. Alors, souvent, c'est de l'inconscience qui est pas du tout volontaire. Ils veulent encourager un coureur et puis ils sont encore sur le chemin quand le coureur suivant arrive. Maintenant, on a vu tout récemment là un jet de casquette là par contre délibéré vers la roue d'un coureur. C'est sûr que s'il y a la moindre chose qui rentre dans vos rayons à une vitesse de 70 km/h,
la chute est
vous
assurée.
Partez pour un soleil quoi. Et donc oui, non, vraiment ça reste impressionnant. Moi je vois que au niveau technique on peut adapter les routes, on peut ralentir un peu aussi l'évolution des vélos, mais je voyais aussi que les coureurs reconnaissent prendre trop de risques parce que il y a une pression commerciale derrière, parce que on pousse de plus en plus vers la performance. Et je voyais aussi un commentaire qui était intéressant d'un lecteur d'un article qui disait que ce qui changeait peut-être beaucoup par rapport à il y a 30, 40, 50 ans, c'était la performance de tous les coureurs d'un peloton, et qu'il y a moins de différence à l'intérieur du peloton, et que donc avant, quand vous aviez 5 ou 10 coureurs qui arrivaient à se détacher et devaient jouer entre guillemets la sécurité entre eux, c'était plus facile à gérer que quand vous en avez 50 qui sont capables de remporter l'étape et qui veulent jouer vraiment crânement leur chance, et donc prendre tous les risques.
Alors, très très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que les courses et la sécurité des coureurs, c'était mieux avant ?
Sûrement pas. C'était pas mieux avant. Il y a eu toujours des chutes spectaculaires dans les courses cyclistes. Mais je pense qu'ils avaient un matériel qui, à mon avis, compensait peut-être un peu mieux les petites erreurs de pilotage, voilà ce qu'on pourrait dire, puisque en fait, le cyclisme c'est du pilotage hein, aussi, et du pilotage très très fin. Enfin, donc je pense que par rapport à ça, on peut pas dire que c'était moins dangereux autrefois. Ça c'est pas vrai, parce que l'état des routes au contraire était souvent dégradé davantage que de nos jours, où en général il y a des reconnaissances et si jamais il y a une route qui est pas assez, enfin en tout cas dans les très grandes épreuves, s'il y a une route qui est pas jugée assez bonne, en général, ils refont les bitumes. Mais je pense pas que c'était plus dangereux, moins dangereux avant. Mais ce qu'avait vu que Manu, c'est vrai quoi. La pression qu'il y a sur un nombre de plus en plus nombreux de cyclistes de très haut niveau peut expliquer aussi les chutes.
Pierre, il parlait de pilotage très fin. Moi, je voulais faire une comparaison avec un autre sport qui est la MotoGP, où là, on peut parler vraiment de pilotage très fin aussi. Vous avez des accidents un peu tout le temps, mais vraiment sans gravité. Et sans gravité, pourquoi ? Parce que bon, il y a la manière de tomber. On est sur des circuits, donc c'est pas comparable avec la route, et c'est pas ça que je veux faire comme comparaison. Mais par contre, il y a un matériel qui est venu sécuriser les pilotes. Et donc, par exemple, vous avez des systèmes d'airbag qui vont se gonfler le long de la colonne du pilote et qui évitent des problèmes au cervical, par exemple. Et donc, il y a quand même des choses qu'on pourrait mettre en place, alors qui vont peut-être réduire la performance ou qui seront peut-être pas dans un sens du confort pour le cycliste, mais il faudra faire un choix un jour ou l'autre entre sécurité et performance.
Alors, malheureusement, je vais vous arrêter là, même si le sujet a l'air de vraiment vous passionner tous les deux. Et on va faire une nouvelle pause en musique et puis on se retrouve dans un instant pour vos zooms.
Je suis l'indécis. Décideur, change de vie, comme d'humeur, je suis un défi l'or, je découle les fils, sans pudeur. Je suis un démineur, et bien qu'en dépit de vos ardeurs, j'amorce l'envie de l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécideur. Charlie Chaplin, De Niro, je fais du piano, debout, assis par terre. Je suis un délit, un délivreur, je change d'avis, mais sans saveur. Je suis un dénigreur de vos envies, de toutes mes peurs. Je suis un débris, un débris d'or, je lâche l'ennui dans la torpeur, je suis un détonateur, je suis l'indécis, l'indécis d'or. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano, je suis Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro, je suis du Paris. Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro, je fais du piano, debout, assis par terre. Je suis un détourneur de la pensée, de nos ardeurs, je suis l'indécis, l'indécideur. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano, je suis Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro. De la pensée, de nos ardeurs, je suis l'indécis, l'indécis d'or.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Et nous écoutions il y a un instant l'indécideur de Suarez. J'espère que vous n'avez pas été trop indécis pour le choix de vos zooms, Pierre Garnier, Luc, Manu Van Lier. Alors, qui veut commencer déjà?
Allez, Manu.
Allez, je suis prêt.
Manu, vous nous parlez des congés maladie.
Des congés maladie, et plus précisément, donc depuis fin novembre 2022, les travailleurs des grandes entreprises ne sont plus tenus de présenter un certificat pour les absences d'un jour. Ça vaut pour les entreprises de plus de 50 salariés, avec une limite de 3 jours par an, donc 3 fois 1 jour par an qu'on ne doit plus justifier par un certificat. Et après une année complète d'application de ce nouveau système, l'heure est au bilan. Sécurex a mené une étude auprès de 23 600 employeurs et il ressort que les absences d'un jour des grandes entreprises ont augmenté de 44% dans les entreprises de moins de 50 employés. Eh bien, cette limite est de 15%, donc 3 fois moins d'augmentation. Et puis, maintenant, c'est difficile à dire si certains profitent du système en se disant qu'ils vont bénéficier de ces 3 jours de maladie non justifiés, ou simplement, quand cette procédure n'est pas possible, si les salariés renoncent plus vite à se rendre chez le médecin pour obtenir un certificat. Donc, est-ce que certains le prennent pour un droit acquis ou pas, difficile de se prononcer. Toujours est-il que il y a une augmentation et elle se vérifie dans les chiffres. Mais ça pose aussi tout de même question, d'autant qu'en juin 2023, vous vous souvenez peut-être, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, évoquait la possibilité de supprimer les certificats médicaux de moins de 4 jours pour faire notamment face à la pénurie de médecins. Une proposition qui avait d'ailleurs été qualifiée à l'époque par l'UCM de catastrophique et par la Fédération des entreprises belges d'incompréhensible. Les chiffres du jour tendent à leur donner raison.
Merci Manu pour ce petit point sur les congés maladie. Et alors Pierre, vous vouliez nous parler d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, un jugement historique donc, qui a été rendu, c'était mardi dernier je crois. La Cour donc, européenne des droits de l'homme a condamné pour la première fois un État pour inaction climatique. En l'occurrence, c'était la Suisse. Bon, c'est pas tellement le plus important dans cette histoire parce que ça veut dire que cette décision va faire jurisprudence et que la Cour européenne des droits de l'homme, cette décision va s'appliquer à 46 pays membres du Conseil de l'Europe, dont la Belgique et donc quasiment toute l'Europe. La Cour, en fait, pour la première fois, a établi donc un lien clair entre la question climatique et les droits de l'homme au niveau donc de cette cour. Donc, on a un petit lien avec notre premier sujet. Et bien voilà, donc aux autres États sans doute maintenant de revoir leur politique en la matière et de présenter donc des actions pour faire baisser leur, enfin pour décarboner au plus vite leur leur pays. Voilà.
La Suisse n'est peut-être pas le premier pays auquel on pense pour l'inaction climatique.
Non, mais c'est là, c'était et une action qui a été menée par en fait les aînés, les aînés pour la protection du climat, donc une association qui rassemblait essentiellement des femmes. Et qui a réussi voilà, à l'emporter.
Voilà, ils ont gagné une bataille pour tout le monde. Merci Pierre. Et puis il est déjà temps de, pour vous de nous présenter le journal dimanche de la semaine. Alors dis-nous que peuvent lire nos auditeurs.
J'enchaîne effectivement. Cette semaine, les abonnés à Dimanche ont eu la bonne surprise de recevoir avec leur journal le nouveau numéro de la revue en question. Une démarche alors, promotionnelle, certes, mais aussi citoyenne, puisque la une de cette revue jésuite édité par le Centre Avec, est barré par une question vers un nouveau dimanche noir, complété d'un sous-titre sans ambiguïté, comprendre l'extrême droite pour mieux y résister. À l'approche des élections du 9 juin, les sondages se suivent et se ressemblent sur le poids que pourrait obtenir l'extrême droite flamande, ce qui inquiète Simon-Pierre de Montpellier, donc le rédacteur en chef de cette revue en question, que vous avez parfois d'ailleurs dans le
fritage. Hein. Et on a d'ailleurs parlé de cette revue la semaine dernière.
Voilà. Il constate, donc Simon-Pierre de Montpellier constate par ailleurs qu'une partie des catholiques pourrait se laisser séduire par certaines personnalités d'extrême droite qui mobilisent de manière nostalgique et exclusive des références à la tradition chrétienne. Voilà un article de Vincent Delcor à lire en page 4. La une de dimanche, quant à elle, est consacrée à l'accueil des couples de même sexe dans l'Église. On se souvient qu'en décembre dernier, le Saint-Siège publiait Fiducia Supplicans, un document autorisant notamment dans un cadre non liturgique la bénédiction des couples de même sexe, une décision qui a suscité autant d'enthousiasme que de fortes oppositions au sein de l'Église. Là où il existe, et notamment dans le diocèse de Liège et ceux de Flandre, l'accueil des couples homosexuels dans l'Église relève de sa mission pastorale. Et les contours d'un tel accueil avaient en fait déjà été dessinés dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, publiée en 2016. Cette ouverture pastorale pourrait-elle aboutir à un changement de la doctrine de l'Église sur le mariage? Alors, le Saint-Siège, de nombreux évêques et les théologiens assurent que non, mais pour autant, ne pourrait-on pas envisager de reconnaître une certaine valeur aux relations homosexuelles? Un discernement théologique passant par une contextualisation des textes bibliques et la prise en compte des acquis actuels de l'anthropologie s'avère donc aujourd'hui indispensable, estime Christophe Herings dans le dossier qu'il signe en pages 8 et 9. L'invité du grand entretien est cette semaine Vincent Genen, ce Padois d'origine devenu liégeois d'adoption et médecin spécialisé dans l'endocrinologie. C'est aussi un homme qui nourrit depuis longtemps une profonde réflexion sur l'articulation entre foi et science. Sa conviction est qu'elles ne sont absolument pas antinomiques. Il la développe dans cette interview en ne cachant rien de son propre cheminement spirituel. Ces propos ont été recueillis par Bernard Delforge et sont à lire en pages 2 et 3. Et pour terminer ce tour d'horizon de dimanche, je vous propose d'aller du côté du collège Matteo Ricci à Anderlecht. Fondé il y a 5 ans, cet établissement jésuite affiche fièrement ses singularités, avec notamment la manière d'évaluer les élèves ou d'organiser les horaires, dans le but de gagner du temps pour le réinjecter dans d'autres activités, et notamment l'intériorité spirituelle. Jacques Zegers a rencontré Anne Olivier, la directrice du collège. Son article est en page 5. Voilà. Bon week-end de lecture avec Dimanche et donc la revue en question.
Merci Pierre et puis merci aussi Manu et merci à tous les deux d'être venus me retrouver au pied levé dans ce studio. L'émission est à retrouver en podcast sur katobel.be et rcf.fr et il est déjà temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt.